sur la côte vendéenne. Il est 21h.
Neptune FM.
Écoutez et découvrez. Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Ciao, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble, enfin de retour après ces 2 mois enfermés à la maison. Alors, du coup, cette semaine, je vais vous parler du groupe Kalmando Kwal. On parlera ensuite de 3 mangas des éditions Glénat. Donc on parlera du manga Le Dilemme de Toki, on aura la chronique du volume 9 de La Tour Fantôme et la chronique du volume 3 du Couvent des Damnés. On aura ensuite un petit point sur les sorties manga de la semaine. On continuera à parler culture. Vous avez certainement dû oublier, mais il y a 2 mois, j'avais commencé à vous parler un peu du sumo. Voilà, donc on continuera à parler un peu du sumotori Toshinoshin. Alors ensuite, on aura une petite actualité à Hong Kong avec une saisie record de 26 tonnes d'ailerons de requins. Voilà, j'ai décidé de ne pas parler du Covid parce qu'il y en a marre. Et on finira avec une petite news musicale avec les dates de la tournée européenne de Ravi qui ont été annoncées pour octobre. Voilà, alors j'espère que ça va aller, que je ne vais pas trop cafouiller parce qu'après 2 mois, je ne sais plus comment on fait. Mais en attendant, on va commencer avec la première chanson de l'émission. C'est Kyoku, interprétée par Kuwashima Oko, la doubleuse de Claire dans l'anime Claymore. Et on reviendra juste après pour parler du groupe Kalmando Kwal.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
C'était Kuwashima Oko, la doubleuse de Claire dans l'anime Claymore, qui nous interprétait la chanson Kyoku. On passe maintenant à la présentation du groupe Kalmando Qual. Donc c'est un groupe japonais de genre électro, rock, metal, visual kei qui a fait ses débuts en 2001 et qui s'est séparé en 2016. Donc ils étaient sous le label Star Wave Records à partir de 2010. Le groupe se composait de 3 membres. On avait Hibiki au chant de 2001 à 2016, Tak à la guitare de 2001 à 2016 et Maya à la batterie de 2009 à 2016. On compte aussi un ex-membre, Kenka, qui était à la basse de 2001 à 2013. Donc à l'origine, le groupe commence en 2000 et il se nomme alors Arc, point virgule, G, deux petits points, Noël. Voilà. Faut pas se poser de questions. Avec les groupes japonais, des fois, ils ont des noms un peu chelous. Voilà, donc au début, le groupe comptait 6 membres. Kalmando Qual démarre ensuite réellement en août 2001 avec Hibiki, Tak, Task, Kenka et Maya. Donc le groupe utilise un style très personnel, des musiques glauques, sombres, torturées, aux tendances parfois macabres, inspirées aussi bien du métal que de l'industriel, du hard rock des années 80 que de la techno. Leur style est varié et très particulier, mais les membres du groupe le décrivent simplement comme étant du rock gothique. Esthétiquement, le groupe adopte un style assez sombre, voire parfois malsain. Leur premier concert a lieu le 15 août 2001 au Ikebukuro Cyber. Ils enchaînent ensuite 3 concerts supplémentaires et en profitent pour distribuer leur première démo tape. Ils sortent ensuite un premier mini-album le 7 mai 2003. Le 4 avril 2004, le groupe sort son premier maxi-single Silent et enchaîne avec une tournée du même nom. Durant cette période, le batteur Maya décide de quitter le groupe, les autres continuent malgré tout et ils entament un two-man avec le groupe Kinarura. C'est en 2005, le 23 mars, que sort un premier DVD Inner Trip, contenant uniquement des clips. Le 3 août sort ensuite leur premier album et à partir de mai 2006, Kalmando Qual effectue une tournée européenne passant le 29 juillet à la Seine Bastille à Paris. Peu après, le batteur de session Shio les rejoint. À partir de décembre 2006, le groupe se met en une sorte de pause et le groupe Twisted Clock se forme. Donc il s'agit en fait d'un projet parallèle fondé par les mêmes musiciens qui va durer environ 2 ans. C'est ensuite en 2009 que le groupe reprend vraiment ses activités avec différents concerts, notamment une tournée européenne avec un passage en France le 18 janvier à la Mécanique Ondulatoire de Paris. En 2010, ils signent sous le label Starwave Records avec le retour de leur premier batteur Maya. Le groupe cherche ensuite à explorer un nouvel horizon musical et esthétique. Donc en juin 2011, ils changent encore de look avec un nouveau changement en 2012 avec la sortie de leur 3e album qui propose le même concept que précédemment mais avec un nouveau style de musique. En 2013, ils annoncent une nouvelle tournée en Europe du 3 au 19 mai. Peu de temps après cette tournée, donc Kenka quitte le groupe pour se concentrer sur Crims, son autre groupe. Kalmando Qual avait ensuite un concert prévu aux États-Unis le 31 octobre, au Trauma Columbus dans l'Ohio, mais le concert a été annulé à cause d'un problème de visa. Bravo. Après le départ de Kenka, Kalmando Qual existe toujours, le bassiste se faisant remplacer par Till en tant que membre de session. Voilà, donc après jusqu'à 2016 où ils décident de se séparer. Donc côté discographie, pour résumer, on a 4 albums. Le premier c'est Killer Fiction qui est sorti le 7 mai 2003 et le dernier Black Sheep qui est sorti le 27 juin 2012. On a aussi un mini-album Zetsubo no Gosenfu qui est sorti le 23 avril 2014. On a aussi 8 singles. Le premier c'est Neo Bible Volume 3 qui est sorti le 10 août 2003 et le dernier Yamiwo Tsuranuku Gekijyo no Kagayaki qui est sorti le 30 janvier 2013. Ils ont aussi sorti 2 démo tapes, Vision qui est sorti le 19 décembre 2001 et Kosatsu Sareta Risoto Akai Eiya qui est sorti le 17 juin 2002. Ils ont aussi distribué un CD en live, Limited One Man Live Charity CD, qui est sorti le 3 juin 2011. Et ils ont enfin participé à cette compilation, la première VA Hysteric Media Zone, qui est sortie le 21 juin 2002. Et le dernier, c'est Starwave Records Volume 2, qui est sorti le 1er août 2012. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite deux chansons de Kalmando Kwal. On commence avec Anti-Flag et on viendra juste après pour parler du manga Le Dilemme de Toki.
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Donc c'était Calman de Kual avec la chanson Yamiwo Tsuranuku Gekijyo no Kagayaki. On passe maintenant à la présentation du manga Le Dilemme de Toki, du titre original Sentaku no Toki. Donc c'est un shonen de genre drame, science-fiction, surnaturel qui a été écrit par Gunshi Kiri et prépublié dans le Jump SQ. La version japonaise est parue en 2017 aux éditions Shueisha avec un total de 3 volumes qui terminent la série, c'est donc très court. Et la version française est parue le 2 janvier 2019 aux éditions Glénat avec également 3 tomes de sortie. Donc vous pourrez retrouver Le Dilemme de Toki dans le commerce pour un prix de 7,60€. L'âge conseillé pour le lire est de 14 ans et plus et il n'existe pas d'adaptation en animé. Homme et ou femme, amour et ou amitié. Alors, Mitsuharu, le lycéen, rencontre Toki l'extraterrestre venu sur Terre pour un but bien précis, réunir les ingrédients nécessaires pour déterminer son sexe. Voyant Mitsuharu seul et incapable de tisser des liens avec son entourage, Toki lui propose de choisir son sexe pour pouvoir lui offrir son amitié ou son amour. Mais à mesure que leurs relations s'approfondissent, le choix devient de plus en plus difficile, tout autant pour Mitsuharu que pour Toki. Première œuvre du jeune auteur Kiri Gunshi, cette fable fantastique mais réaliste nous interroge sur les choix qui s'offrent à tout adolescent. Un shonen très original et plein de fraîcheur, complet en 3 tomes, et donc à retrouver aux éditions Glénat. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Game de Line, et on reviendra juste après pour la chronique du volume 9 de La Tour Fantôme. Donc c'était Line avec la chanson Game. On passe maintenant à la chronique du volume 9 de La Tour Fantôme. Donc je rappelle que c'est un seinen de genre drame historique, horreur, mystère qui a été écrit par Nogisaka Taro à partir de l'œuvre originale de Kuroiwa Ruiko. Voilà. Et ça a été prépublié dans le Big Comic Supérieur. La version japonaise est parue aux éditions Shogakukan avec un total de 9 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue aux éditions Glénat avec également 9 tomes. Donc ce volume 9 est sorti le 18 novembre 2015 au prix de 7,60€. Et je rappelle que la série est pour public averti à cause de la violence modérée. Alors le résumé de ce tome, Taichi a remporté la chasse au trésor et tué l'horloge de la mort. Tetsuo, quant à lui, s'apprête à renaître dans un corps d'homme via un échange de cerveau avec Marube. Taichi a cependant un message important à lui transmettre avant qu'il ne commette l'irréparable, mais devant sa beauté spectaculaire, il ne peut même plus le regarder dans les yeux. Parviendra-t-il à raisonner Tetsuo ? Taichi a beau avoir déniché le trésor de la tour et s'être débarrassé de l'horloge de la mort, il lui reste une dernière chose à faire, retrouver Tetsuo parti en compagnie de Dokuro Marube, qui a trouvé les bonnes paroles pour la faire venir dans ses filets. En effet, un échange de cerveau sous l'égide de Tesla devrait permettre à la jeune femme d'enfin devenir un homme et à Marube d'atteindre son objectif. Mais avant que l'irréparable n'ait lieu, Taichi a encore des choses à dire à Tetsuo et c'est en compagnie de Satoko et de Yagobei et en luttant contre le temps qu'il se met en quête du repère de Marube, une réplique de la Tour de Londres. Mais le lieu est bien gardé par les protégés de Marube ayant subi les expérimentations de Tesla. Taichi parviendra-t-il à retrouver et raisonner Tetsuo et Marube ? Les dernières réponses arrivent dans ce final où Taro Nogisaka reste maître de son récit, présentant avec force et immersion les derniers éléments énigmatiques, notamment autour de Marube et du rôle de la mère défunte de Satoko dans l'affaire. Rythmé, le récit se permet quelques moments d'action aussi étranges que sympathiques, portés par les expériences de Tesla, et quelques rebondissements exploitant certains personnages secondaires comme Q et Arada, pour un résultat qui se lit tout seul et amène clairement un dernier focus assez intense et tendu autour du trio Taichi, Tetsuo, Marube. Tetsuo frôle son rêve de devenir concrètement un homme aux côtés d'un Marube plus inquiétant et fascinant que jamais, dans ses désirs de jeunesse et dans son amour passionné pour sa défunte Onatsu, qui le confine presque à la folie. Mais au final, que souhaite réellement Tetsuo ? En dehors du corps, n'est-elle pas déjà un homme ? Taichi, qui nous montre mieux que jamais tout son gain de caractère et de persévérance, saura-t-il trouver les mots justes pour retrouver le Tetsuo qu'il a connu ? Et pourra-t-il seulement passer outre son apparence féminine plus séduisante que jamais ? Ce final mouvementé conclut tout dans une ambiance plus décadente que jamais, mais Nogisaka sait mettre en avant les comportements de ses héros via une petite réflexion sur l'acceptation de ce qu'on est et sur le besoin de voir au-delà des apparences. Il reste un petit soupçon de trop peu quant au dernier chapitre un brin expéditif, mais l'auteur, non sans malice, en offrant des clins d'œil aux œuvres de Kuroiwa et de Rampo qui l'ont inspiré, ne déçoit pas. Voilà, donc si vous avez envie de découvrir La Tour Fantôme, je rappelle que c'est paru en 9 tomes, et c'est fini donc, et c'est paru aux éditions Glénat. Voilà, on va s'écouter tout de suite une autre chanson, Swiss Take Out de La Boom, et on reviendra juste après pour parler des sorties manga de la semaine. Oh, Lemon Church is my boyfriend. He's a jerk. c'était La Boom avec la chanson Three Strike Out. On passe maintenant au sorti manga de la semaine. Donc on n'en aura pas beaucoup, hein. C'est la reprise, donc on va y aller doucement. On aura une sortie pour mercredi 13 mai aux éditions Paquet avec le volume 1 de Intercepteur. Et ensuite, ça sera pour vendredi 15 mai. Alors, aux éditions Kana, on aura le volume 10 de Banal à tout prix, le volume 51 de Hayate The Combat Butler, le volume 13 de Ichiko et Nico, le volume 1 de Just Not Married, le volume 1 de Ma vie en prison, le volume 7 de Otaku Otaku, le volume 3 de Samurai 8, la légende de Hachimaru. On aura le volume 3 de Sexy Cosplay Doll, le volume 9 et le volume 10 de Slam Dunk, qui sort en réédition double. On aura le volume 12 de Tenjin et le volume 45 de Ushijima, l'usurier de l'ombre. Et enfin, on aura aux éditions Ankama le volume 4 de Double Me. Et voilà. Du coup, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Supergirl de Ladies Code. Et on reviendra juste après pour parler culture avec le sumo. C'était Ladies Code avec la chanson Supergirl. On passe maintenant à la partie culture. On va continuer à parler du sumo et plus particulièrement de Tochinoshin. Donc après un premier voyage en 2004 pour participer à un tournoi international junior de judo, Tochinoshin reste 3 mois dans l'archipel nippon en 2005 et se met au sumo à l'université Nihon à Tokyo. Donc il franchit le pas l'année suivante et quitte la Géorgie, son pays natal de 3,7 millions d'habitants, pour s'installer dans l'immense mégapole tokyoïte, 10 fois plus peuplée. Donc au début, je me sentais triste et isolée, se souvient-il. et contrarié par le port du kimono, les règles pointilleuses. Le mal du pays, bien sûr, je ne connaissais pas la langue japonaise, je n'avais même pas un téléphone mobile pour appeler. Donc pour ceux qui ne sont pas encore sekitori ou titulaires, la vie dans ce qui est l'un des derniers vestiges vivants du passé du Japon est une existence d'ascète en totale communauté jour et nuit, sans chambre individuelle. Une vie au rythme des corvées ménagères, des matinées d'impitoyables entraînements et de repas gargantuesques cloîtrés dans le ryogoku. C'est au Japon que j'ai tout appris et avant tout qu'il faut s'occuper de ses camarades car nous vivons ensemble. Cette proximité était visible en ce matin du reportage où, dans une petite pièce éclairée au néon, les titulaires comme lui vêtus du seul mawashi blanc, la ceinture du lutteur, et les non-titulaires au mawashi noir combattaient, faisaient des roulades avec une légèreté surprenante, se portaient les uns les autres tout autour du doyo d'argile, l'aire circulaire de combat. Leur camaraderie se manifestait par des conseils chuchotés, une main posée sur le front de l'autre, la terre grattée avec un bâton sur le dos du camarade, ou encore une louche d'eau tendue. Voilà, on continuera à parler du sumo la semaine prochaine. En attendant, on va s'écouter une autre chanson, c'est Fukyu Waon de Lamina, et on viendra juste après pour parler du volume 3 du couvent des damnés.
Yeah.
c'était Lamina avec la chanson Fuck You Waon. On passe maintenant à la chronique du volume 3 du Couvent des Damnés. Donc je rappelle que c'est un seinen de genre drame historique qui a été écrit par Takeyoshi Minoru, traduit par Johan Leclerc et prépublié dans le Gekkan Spirits. La version japonaise est parue aux éditions Shogakukan avec un total de 6 volumes qui terminent la série, c'est donc très court. Et la version française est parue aux éditions Glénat avec également 6 tomes de sortie. Ce volume 3 est paru le 7 juin 2017 au prix de 7,60€ et je rappelle que la série est pour public averti à cause de la violence. Le résumé de ce tome, 16e siècle, Saint-Empire romain germanique, une époque où les sages-femmes innocentes pouvaient être accusées de sorcellerie. Laissée seule au monde par les persécutions de l'Église, la jeune Ella est enfermée dans un couvent pour enfants de sorcières. Alors qu'elle commençait tout juste à s'habituer aux règles sévères de la vie monastique, Ella est soudain placée en isolement. Ses plans auraient-ils été découverts ? Le couvent de l'ordre du Claustrum est en pleine ébullition. Certaines pensionnaires parlent du rêve rouge, un songe particulièrement troublant dont il est interdit de parler, égard à celles qui n'auraient pas eu cette vision en rêve. Mais du côté d'Ella et les siennes, aucune vision de ce type. Courrait-elle un danger ? Le malaise continue de s'installer au sein du couvent et c'est une étrange enquête que vont devoir mener Ella et ses camarades concernant le rêve rouge. Pourtant, si ce récit dégageait un certain potentiel, il ne s'apparente qu'à un prétexte pour développer le personnage de Théa, ses faiblesses notamment, et trouve une résolution assez brutale et simple, grâce au génie d'Ella qui semble sans faiblesse, ce qui est quand même un peu dommage. Néanmoins, la suite du tome se montre beaucoup plus ambitieuse, puisqu'elle développe un récit qui ne s'achèvera que dans ses dernières pages. Après un début qui nous permettait de nous remettre dans le bain sans vraiment nous surprendre, Minoru Takeyoshi fait monter une remarquable tension sur toute la suite du volume. Une situation de désespoir sans précédent s'annonce pour nos héroïnes, et les rebondissements qui ponctuent l'intrigue ne manquent pas de surprendre et de créer un rythme bien mené qui, en plus, permet au scénario de progresser doucement. Il y aurait alors beaucoup à dire tant les retournements de situation sont nombreux et que chaque personnage entrant en scène va de son propre complot. Le tout peut paraître assez poussé mais contribue à créer le climat froid et cruel de la série, le couvent de l'ordre du Claustrum donnant sans cesse l'impression qu'aucune issue n'est à envisager. Et même lorsque tout semble terminé, l'auteur relance les hostilités et se montre impitoyable, tout particulièrement en ce qui concerne le personnage d'Ella, qui ici a droit aux honneurs qu'on attendait, car l'héroïne s'est toujours montrée sans faille, un point qui peut agacer bien que le récit mette efficacement la demoiselle en scène, tel un ange de la vengeance. Pourtant, les nerfs d'Ella vont être mis à rude épreuve, avec une séquence finale brillamment contée et cruelle, aussi bien pour la victime que pour notre héroïne, en proie à ses propres démons. Difficile de ne pas retenir son souffle sur toute cette séquence, tant elle est remarquable d'intensité. On notera qu'une toile de fond est bien présente et concerne l'ascension de l'ordre. Sur ce point, l'auteur s'adonne à quelques facilités scénaristiques pour justifier la montée d'un danger. Le scénario se révèle donc toujours plus ambitieux à chaque tome, à ce titre difficile de ne pas être curieux à l'idée de découvrir la suite. Néanmoins, si la série se montre fidèle au schéma qu'elle expose pour continuer, difficile d'imaginer comment l'œuvre pourra se conclure dans 3 tomes. On imagine alors une suite avec pas mal de chamboulements et on a d'autant plus hâte. Voilà, donc Le Couvent des Damnés a retrouvé en 6 tomes, série finie donc, aux éditions Glénat. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Yume no Kakera de Lance, et on reviendra juste après pour une actualité à Hong Kong.
という未来は不安定。
C'était Lanz avec la chanson Yume no Kakera. On passe maintenant à l'actualité à Hong Kong. Le butin se trouvait dans deux conteneurs en provenance d'Équateur. Les douanes de Hong Kong ont annoncé jeudi 7 mai la découverte de 26 tonnes d'ailerons de requins de contrebande, prélevés sur environ 38 500 animaux. Donc il y avait 13 tonnes dans chacun des conteneurs, alors que le précédent record était une saisie de 3,8 tonnes en 2009. En 2019, pardon. Donc imaginez, il y avait le record, c'était 3,8 tonnes, et là, on est passé à 26 tonnes. Voilà, voilà. Donc, c'est ce qu'a déclaré au journaliste Danny Chung, responsable des douanes locales. Un homme de 57 ans a été arrêté et libéré sous caution dans le cadre de cette saisie exceptionnelle. La plupart des ailerons provenaient de requins renards ou de requins soyeux, deux espèces vulnérables, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Les populations de requins ont été décimées ces dernières décennies, notamment par la pêche pour la consommation. La pêche aux ailerons consiste généralement à pêcher les poissons, à leur découper les ailerons et à les relâcher mutilés à l'eau. Les ailerons séchés se vendent à prix fort pour être utilisés dans des soupes très prisées dans le sud de la Chine. La vente et la consommation d'ailerons de requins ne sont pas illégales à Hong Kong, mais les commerces doivent avoir un agrément. Des années de campagne des associations de défense de la nature ont contribué à plomber l'attrait des ailerons pour la jeune génération en Chine, à Hong Kong, Taïwan ou Macao. Mais ce mets continue d'être apprécié par les plus anciens et nombre d'hôtels et de restaurants le servent toujours en soupe. Une enquête conduite en 2018 par le Fonds mondial pour la nature avait montré que 70% des Hongkongais avaient mangé des ailerons au cours des 12 mois précédents, souvent lors de mariages, de réunions de famille ou d'événements professionnels. L'organisation environnementale Wild Aid estime quant à elle que 73 millions de requins sont abattus chaque année pour leurs ailerons. Voilà. On va s'écouter tout de suite une autre chanson. C'est Driver's Eye de l'Arc-en-Ciel qui a servi de premier opening pour l'anime Great Teacher Onizuka. Et on reviendra juste après pour finir l'émission avec une news musicale. C'était l'Arc-en-Ciel avec la chanson Driver's Eye qui a servi de premier opening pour l'anime Great Teacher Onizuka. On va maintenant finir l'émission avec une news musicale. Alors, avant le confinement dû au Covid-19, Ravi avait annoncé via Twitter une nouvelle tournée européenne, le 2020 Ravi World Tour Eldorado, accompagné par le tourneur Key Events. Donc, cette tournée passera par 4 villes. On a maintenant les dates. Donc, ça sera le 21 octobre 2020 à Budapest au Dürerkert. Le 24 octobre à Paris au Gibus Live. On aura ensuite le 25 octobre 2020 à Londres au 229 The Venue. Et le 26 octobre 2020 à Cologne au Die Cantine. La vente des places se fera le 5 juillet sur la billetterie de K-Events. Toutefois, les détails des tarifs n'ont pas encore été annoncés. Vous pourrez suivre les actualités de cette tournée via l'événement Facebook du tourneur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Gibus Live est une boîte de nuit et une salle de concert avec une capacité d'accueil d'environ 900 personnes. Et en attendant le mois d'octobre, vous pourrez patienter en écoutant le dernier album de Ravi qui est sorti le 24 février dernier, intitulé Eldorado, avec notamment le titre Rockstar en featuring avec Polo Alto de Produce. Voilà, si ça vous intéresse de découvrir un peu ce qu'il propose comme musique, vous pouvez découvrir cet album. Du coup, pour terminer l'émission, on va s'écouter une musique de Ravi. Donc c'est What About You en featuring avec Hailey. Demain matin, vous retrouverez Roland pour l'émission Bonjour, donc de 10h à 11h30. Voilà. Et moi, peut-être vendredi, si je reprends encore Cordial Mon Geek, sinon ça sera donc de 18h30 à 19h. Sinon, ça sera lundi prochain pour une nouvelle émission Asian Bubble. Je serai toujours là. Donc de 21h à 22h lundi prochain. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt.